Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Allez, on se tient au jus.
Salut, c'est Camille et Justine, bienvenue dans On se tient au jus. Aujourd'hui, on est avec Salomé Saké et on boit le jus Tropicana Réveil des Tropiques.
Voilà. Carrément, t'as dit la marque.
Et j'ai clairement menti car il n'y en a dans aucun des verres autour de la table. On boit de l'eau, on boit de l'eau parce que c'est l'arrivée des beaux jours.
Et on boit, tu bois quand t'as chaud uniquement?
Bah, l'hiver, je trouve qu'on boit davantage. Bah, je pense que s'il y avait une étude qui devait se faire. Est-ce qu'on boit pas plus l'été que l'hiver par hasard?
Je sais pas. Moi j'essaie de boire parce que je suis les recommandations
de l'OMS.
J'ai même une appli pour penser à boire toute la journée de l'eau.
Ah ouais, sinon j'ai une appli dans ma tête en me disant il faut que je boive un verre d'eau, ça fait plus de 4 heures.
Vous n'avez pas soif?
Mais non.
J'ai appris que Jennifer Lawrence, je crois que c'était Adrien Méniel qui nous l'avait dit dans notre podcast, ou peut-être ailleurs, bon je sais plus, qu'elle s'était fait un tatouage avec écrit water pour se rappeler de boire de l'eau parce que pareil elle a jamais soif et elle.
Ah mais ça va loin quoi.
Ah ouais, bon bah comme quoi c'est un vrai sujet. On met les pieds dans le plat direct ici.
Et on mange un petit gâteau banane chocolat quand même fait par Camille. Voilà.
Délicieux. Et beurre de cacahuète.
Délicieux.
Salomé, c'est donc. Ah, j'allais dire, c'est une journaliste. Ah, j'allais faire une présentation alors qu'on a un acrostiche.
S comme Seine-et-Marne, c'est là qu'elle est née, mais elle a grandi en Ardèche.
A comme apprentissage, elle a étudié les sciences politiques. Elle a un master en droit international, en géopolitique et un en journalisme bilingue.
L comme LCP, où elle est chroniqueuse, mais elle travaille aussi pour Blast, Arte ou France Info.
O comme on vous a déjà conseillé son livre « Sois jeune et tais-toi, réponse à ceux qui critiquent la jeunesse », eh ben lisez-le, vraiment.
M comme mignonne petite jeune qui ne sait pas de quoi elle parle, elle se heurte très souvent à des gens qui la dénigrent car elle est une journaliste de 28 ans qui porte de gros combats.
E comme exemple, elle en est un pour nous et pour une grande partie de la jeunesse qui partage ses combats sur l'urgence climatique ou l'égalité femmes-hommes.
Oh, merci beaucoup pour cette incroyable présentation. Et encore c'est Salomé et ça aurait été et comme.
Exemple.
Exemple. Ça marche, exemple. Ça marche.
À la base, je voulais utiliser le M pour dire militante, mais sur ta fiche Wikipédia, alors les gens qui écoutent notre podcast vont comprendre que très souvent, on fait les acrostiches d'après la fiche Wikipédia des gens. Bon, bah, c'est comme ça. Et c'est marqué que tu ne veux pas dire militante, mais engagée.
Absolument. Mais même engagée, c'est pas forcément un terme que moi, je me serais attribuée toute seule, quoi. C'est quelque chose que les autres journalistes m'ont attribué parce qu'ils estiment que je suis plus engagée qu'eux, mais donc ça me dérange pas parce que l'engagement, je pense pas que c'est une mauvaise chose. Le militantisme, d'ailleurs, non plus. En revanche, le militantisme, je pense que c'est vraiment pas le même métier que le métier de journaliste. Mmh. Donc moi, je suis avant tout journaliste, j'expose des faits, j'appartiens à aucune structure, je ne dois de compte à aucun parti, aucune ONG, aucune association. D'ailleurs, j'adhère à rien du tout à côté de mon travail de journalisme, enfin de journaliste. Et donc je trouve que le terme militant, il sert surtout à disqualifier souvent mon travail. Pour dire c'est pas vraiment du journalisme, c'est du militantisme.
Orienté.
C'est pour ça que vraiment moi je récuse ce terme avec tout le respect que j'ai pour les militants dans la vie, mais moi c'est pas mon travail. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment faire cette distinction là. En revanche, j'ai une manière de faire du journalisme que donc certains qualifient d'engagé parce que je choisis des sujets que moi je considère être d'utilité publique, que c'est vraiment ce qui m'anime quand je choisis mes sujets, qui sont souvent l'économie, l'écologie, les inégalités sociales, des sujets qui sont liés aussi aux inégalités de genre. Et donc, souvent, on va me dire, bon, bah, elle est engagée parce qu'elle choisit ces sujets-là et parce que je les traite aussi d'une certaine manière en ne faisant pas l'équivalence entre, par exemple, des personnes qui seraient d'une gauche radicale et l'extrême droite, en ne faisant pas l'équivalence entre des personnes qui nient le réchauffement climatique et des scientifiques. Et ça, aujourd'hui, ça fait qu'on est souvent qualifié de journaliste engagé. Encore une fois, le terme ne me dérange pas, mais je ne pense pas être plus engagé que des journalistes qui peuvent être sur des chaînes d'information en continu, par exemple.
Oui, mais parce qu'on en revient très souvent à l'idée de la neutralité, ce serait finalement un journalisme de droite. En vrai, enfin, si on creuse un peu, ils estiment que c'est neutre, alors que en fait, nous, avec un regard pour le coup plus militant ou plus engagé, on va considérer que c'est des idées plus de droite finalement.
Mais quand c'est particulièrement frappant en économie,
ouais.
Parce que je me suis donc à Blast, je dirige la rubrique économie, et quand on a un regard libéral sur l'économie, quand on va défendre un modèle qui est celui dans lequel on est actuellement, qui quand même produit des inégalités, qui repose sur l'idée qu'il y aurait un ruissellement, sur l'idée qu'il ne faut surtout pas s'attaquer aux plus riches, sur l'idée que l'État ne doit surtout pas être trop fort. Bon, eh bien, quand on a ce positionnement-là, ce n'est pas considéré comme un positionnement, c'est considéré comme la neutralité. En revanche, quand on va remettre en question ce système-là, ce qui est ce que je fais dans mes émissions, par le biais, encore une fois, d'un travail qui est journalistique, avec une méthodologie journalistique, en interviewant des experts, des économistes, ben là, on va considérer que c'est engagé. Il y a vraiment un deux poids, deux mesures dans le journalisme qui laisse à penser qu'effectivement, la neutralité, pour reprendre les mots d'Alice Coffin, c'est la subjectivité des dominants. Je crois que je l'ai mal cité, mais c'est quelque chose comme ça.
Et ça, on vous l'enseigne à l'école, quand t'es en école de... Toi, t'as fait...
Moi, j'ai fait un master 2. T'as pas fait une école de journalisme. C'est quand même une formation journalistique assez traditionnelle.
Et on vous parle de ça ?
Totalement. Alors, bien sûr, on nous parle de cette objectivité. Alors, dans mon master, on en avait parlé... Tous les professeurs n'en parlaient pas de la même manière, mais de manière plutôt old school, quand même, dans l'ensemble. Et cette idée qu'il faut rester neutre, qu'il faut rester objectif, on remet rarement en cause l'idée même d'objectivité, qui, à mes yeux, n'existe pas quand on est journaliste. On n'est jamais complètement neutre. On a toujours un vécu, on a toujours une expérience personnelle, une sensibilité. On est aussi influencé par le travail de terrain qu'on peut faire, parce que quand on est face à des gens qui sont en souffrance, normalement, si on est humain, on a quand même une forme d'empathie pour eux qui... créer une forme de subjectivité aussi. Et souvent, on ne va pas nous inviter dans les formations journalistiques à assumer cette subjectivité-là. Au contraire, on va nous dire qu'il faut complètement se distancer de ça, essayer d'être neutre, essayer d'être objectif. Et je crois qu'on ne l'est jamais complètement. Et je pense qu'il vaut mieux assumer d'où on vient, quelle est notre sensibilité, notre vécu, et insister sur la méthodologie et la déontologie, parce qu'encore une fois, subjectivité n'est pas incompatible avec la déontologie, c'est-à-dire de respecter, en journalisme, c'est la charte de Munich à laquelle on se réfère, c'est-à-dire de rester, de donner la parole au contradictoire quand, par exemple, on va attaquer quelqu'un, d'avoir toujours la version d'en face, d'essayer de comprendre, d'avoir de l'honnêteté intellectuelle, d'aller faire un travail de terrain, bien évidemment d'aller recouper ses sources, c'est la base de la base, quelles que soient les idées qu'on défend, même si c'est par exemple des chiffres d'une ONG, dans mon cas, il faut les recouper, il faut comprendre la méthodologie, il faut sourcer, il faut être transparent sur la méthodologie, et tout ça n'est pas incompatible avec le fait qu'on soit subjectif. Donc moi, en tant que journaliste, même s'il y a une information qui n'irait pas dans le sens, par exemple, du féminisme que moi aussi je peux défendre, je vais pas omettre cette information. Au contraire, je vais l'inclure dans mon sujet, et c'est ça l'honnêteté intellectuelle. Donc je revendique vraiment, moi, cette honnêteté intellectuelle vis-à-vis de ma subjectivité, plutôt qu'une objectivité que je considère comme étant un mythe.
Oui, c'est sûr. Donc le choix de tes sujets, ça va être quelque chose qui t'anime, mais au cœur de ces sujets, tu vas essayer au max de traiter toutes les infos, enfin de le faire avec honnêteté intellectuelle, ça.
Bah carrément, et qui m'anime. Alors bien sûr, c'est important, mais je me pose vraiment la question de l'utilité publique. Je me dis, est-ce que si ce sujet a été fait 400 fois, je ne vais pas le faire, même si moi, ça m'intéresse. Parce que j'essaie d'apporter une petite pierre à l'édifice du journalisme qui est un pilier dans la démocratie. Et parfois, je trouve qu'on a tendance à oublier ce rôle de contre-pouvoir aussi du journalisme et ce rôle d'information pour faire progresser la société. Moi, je traite pas des informations au hasard comme ça en me disant tiens, ça c'est fun. Non, j'essaie de me dire ok, que va en retirer le spectateur ou le lecteur à la fin. Et évidemment, sur les questions d'écologie actuellement, je trouve qu'on a un rôle en tant que journaliste à partir du moment où l'humanité est menacée. Et parce
oui,
que c'est
exemple.
Ça, non, il faut pas. Enfin, ouais. C'est l'habitabilité de la planète qui est menacée. C'est une priorité, je trouve, en tout cas en termes du niveau d'information auquel moi j'ai accès. Et donc, je trouve que c'est notre rôle de vulgariser ça et de faire prendre conscience aux gens de la gravité de la situation et de ce qu'on pourrait faire et des solutions qui existent. Donc, il y a vraiment, moi, cette conception d'utilité publique, encore une fois, dont on nous parle quand même, mais qu'on ne nous enseigne pas forcément en priorité en école de journalisme.
Et tu te souviens du premier sujet que tu as porté et que tu as eu envie de défendre, dont tu as eu envie de parler en disant ça va être d'utilité publique ?
Alors oui, j'étais même pas encore en forme. En fait, avant de faire ma formation de journalisme à Paris, j'ai fait un Erasmus à Madrid et c'est là-bas que j'ai intégré des cours en plus en journalisme en espagnol. Parce que déjà, j'étais intéressée par cette discipline-là, mais je pensais que je pourrais jamais en faire mon métier, alors je le faisais à côté. Et donc, dans le cadre de cette formation de journalisme en master de journalisme à la Complutense, on m'a laissé faire des sujets que je pouvais choisir. Et mon premier gros sujet, c'était sur les féminicides en Espagne. Et c'était en 2016. Donc... c'était plutôt avant-gardiste en Espagne, ils traitaient
avant
déjà
tout.
Ces questions-là. Moi, je ne connaissais pas du tout le terme féminicide à cette époque-là. Et c'est à Madrid, au contact de féministes, justement, que j'ai appris ce qu'il se passait en Espagne, pourquoi c'était important d'avoir cette terminologie-là. Et j'ai pu aller rencontrer des associations sur place qui parlaient des violences faites aux femmes et de la nécessité de changer la loi en ce qui concerne les femmes. Donc là, vraiment, on était dans la constitution espagnole. Et ça m'avait complètement passionnée. Et c'était mon premier reportage qui est paru nulle part, parce qu'il est paru à l'université, qui m'a vraiment donné aussi envie d'être journaliste. Et ensuite, celui que j'ai vraiment le premier vrai gros reportage que j'ai porté dans la presse, c'était sur les Gilets jaunes, le premier mouvement que j'ai couvert en tant que journaliste. Là, j'avais déjà ma carte de presse pour un média indépendant qui s'appelait Le Vent se lève. Et en fait, c'était un truc un peu schizophrène, parce que je le couvrais, les Gilets jaunes, pour la télévision, avec une approche quand même beaucoup plus traditionnelle. Et à côté, j'avais observé qu'il y avait des violences policières dont j'avais moi-même fait les frais. Et je trouvais ça fou qu'on n'en parle pas, quoi. Je trouvais ça dingue qu'on n'en parle pas à la télévision. Donc je me suis reportée sur Internet en me disant, je vais faire mon reportage toute seule, puisque c'est ça. Et je l'ai fait avec deux collègues de France 24, d'ailleurs, que j'avais un peu engrainé dans le truc, là, et qui étaient venus avec moi sur le terrain. Et on a fait un reportage qui s'appelait « Les blessés qui dérangent ». Et c'était bien avant qu'on parle des violences policières. Et là, j'étais animée, mais à un point, c'était jour et nuit, je n'ai fait que ça. J'ai hébergé des gilets jaunes chez moi. Enfin, le truc est parti très, très loin, parce que je voulais absolument parler de cette thématique-là. Et c'est vrai qu'en tant que journaliste, parfois, on est complètement traversé par et transporté par les thématiques que tu veux traiter.
C'est normal, puisque tu te renseignes et tu es à fond dedans et tu es au cœur du sujet. Et en plus, particulièrement les violences policières, je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de journalistes de terrain qui doivent avoir ça. Je pense à Rémi Buzyn, mais il y en a d'autres, tu vois, qui se les subissent de plein fouet, où on te refuse un peu ton droit de presse. Et je suis pas surprise que ça anime d'autant plus, et que d'un seul coup tu te retrouves à faire un sujet et du coup tu vas faire un sujet qui va sembler orienté, ou en tout cas à charge, mais parce que réellement tu as vécu ce truc là et je trouve qu'on est dans un cercle vicieux où les gens, ça leur donne, c'est du pain béni pour qu'ils disent vous voyez, c'est pas vraiment du journalisme, c'est du militantisme machin. Non, mais en fait c'est normal, quand on est au cœur d'un sujet on vit les choses, et donc on a envie d'en parler de manière extrêmement habitée, ce qui me paraît logique. Mais
et puis ça n'empêche pas de respecter la méthodologie. Et même dans ce reportage-là, j'étais allée voir du côté de la police. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Je trouve que ce qui aurait été purement à charge, c'est de donner la parole que aux gilets jaunes blessés.
T'as quand même les détracteurs qui disent la même chose.
Bien sûr. Non, mais de toute façon, les détracteurs, on les évite jamais. Mais je veux dire, là, on avait vraiment fait l'effort d'envoyer des mails, d'essayer de comprendre du côté de la préfecture de police comment c'était possible, comment réagissaient les politiques. On avait d'ailleurs mis les réactions à l'époque des politiques qui ignoraient complètement ce problème des violences policières. Par exemple, quand on me disait, de la part d'un gilet jaune, il y avait un témoignage, il me disait, j'ai été victime de ça, ça, ça et ça. Moi, mon travail, c'était d'aller essayer de retrouver les vidéos en question, d'essayer de prouver aussi ce que me disait le témoin en question. Et ça ne s'arrête pas à juste recueillir un témoignage brut et dire c'est scandaleux. C'est pas ça. C'est là où c'est pas du militantisme. C'est pour moi un vrai travail journalistique, avec les limites que ça avait bien sûr à l'époque, puisque je débutais et que bien sûr il y a des erreurs que je ne referais pas. Ce que parfois on qualifie de militantisme, c'est de l'empathie. C'est le fait que les personnes que j'ai rencontrées à ce moment-là m'ont touchée et leur souffrance m'a bouleversée. Et j'avais envie d'en parler.
C'est ce que je déplore un peu parfois dans les gens, les fameux détracteurs ou détractrices, c'est qu'ils vont juste aller vers l'idée de vous montrer ce que vous avez envie. Non, en fait. Encore une fois, je fais souvent le parallèle avec Justine et moi, où nous, on fait plus de l'humeur. On n'est pas journaliste, on n'est pas expert. Donc nous, à la rigueur, on peut nous accuser, entre guillemets, de faire de l'humeur. Mais ce qui me rend ouf, c'est qu'en fait, ce genre de commentaires se retrouve aussi sous des podcasts, où dedans, c'est des anthropologues, c'est des historiens, des historiennes qui parlent.
Tout est argumenté,
des journalistes,
sourcé.
Tout est argumenté, sourcé. Et en fait, tu retrouves le même genre de commentaires. Ça me désole, quoi, parce que en fait, de toute façon, c'est juste des gens qui veulent pas être d'accord.
Oui, c'est orienté, mais tu leur demandes de... Ok, t'as quelque chose contre ça. Un contre-argument quelconque. Non, mais juste, c'est orienté. Enfin, tu vois que c'est...
Non, mais après, on nous reproche le choix du sujet.
Oui, à la rigueur, oui.
Je pense pas être plus engagée qu'un journaliste qui va faire un reportage sur la BRAVEM ou sur les policiers qui existent, qu'on retrouve à la télévision. On va montrer ce qui se passe du côté des policiers. Et je pense que c'est important.
Tu veux dire deux fois par semaine sur toutes les chaînes de télé. On est avec les policiers de Lot-et-Garonne.
Non, mais après, je trouve que c'est toujours... Encore une fois, je dis pas que mon sujet est mieux que le leur. En revanche, je pense pas que le mien est plus engagé que le leur. Et c'est là où il y a une nuances, et souvent on a tendance à se dire si on est du côté en train de suivre l'intervention des forces spéciales, je ne sais où, dans les banlieues parisiennes, ça c'est pas engagé. Ce serait pas engagé. Puis en revanche, montrer la souffrance de ceux qui subissent des violences policières, ça ce serait engagé. Utiliser même le terme de violence policière, ce serait engagé. Et c'est là où je suis pas d'accord avec ce deux poids deux mesures qui est imposé à certains journalistes, dont je fais partie. Et je pense que c'est une question de positionnement politique. Et d'ailleurs, il y a un autre élément qui fait qu'on est qualifié de journaliste engagé, voire militant, c'est qu'on va utiliser des adjectifs qualificatifs, parfois, pour qualifier certains sujets. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, et ça arrive à Blast, on le fait pas tout le temps, mais parfois on va dire que c'est scandaleux, on va dire que c'est terrifiant. On va utiliser des adjectifs qualificatifs, encore une fois, qu'on n'utilise pas tout le temps. Ça, on le fait dans les cas où c'est vraiment, on a les preuves de ce qu'on avance et où c'est particulièrement choquant.
Oh, mais il me semble que BFM, ils le font aussi. Hein,
voilà, sur les banlieues, encore une fois, c'est là où il y a vraiment un deux poids, deux mesures. C'est que quand on le fait pour parler de l'État, quand on le fait pour parler de corruption politique, quand on le fait pour parler de violences policières, de...
Là, c'est orienté.
De violences sexistes, bien évidemment. Bien, là, c'est orienté. En revanche, il y a des endroits dans le journalisme, je vais prendre quelque chose de plus consensuel, comme par exemple la guerre en Ukraine, ou la manière dont ont été traitées les femmes en Afghanistan, elles sont toujours traitées les femmes. Là, quel que soit votre média, vous avez le droit de dire que c'est choquant, que c'est horrifiant, que ça ne respecte pas les droits de l'homme, que c'est inadmissible. C'est une question de point de vue. Et c'est pour ça que c'est une question de référent commun. Et il y a des sujets sur lesquels on appelle référent commun sur le fait que les violences sexistes, c'est horrible. Sinon, on est engagé.
Elles ne sont pas horribles en France.
Les violences homophobes.
Horrible en Afghanistan.
Non, mais il y a un côté comme ça. Après, je veux pas. C'est toujours. En fait, on nous fait tomber dans cette gradation. C'est-à-dire, et on en parlait juste avant l'enregistrement de ce podcast. Oui. C'est-à-dire qu'on va parler. Non, mais on va essayer de parler. Moi, ce que j'ai fait en France, parler des violences sexuelles contre les femmes qui existent dans notre pays. Et on va nous dire oui, mais regardez ce qui se passe en Afghanistan.
Oui.
Alors que c'est pas le sujet. J'en ai déjà parlé dans certaines émissions. La manière dont ont été traitées les femmes en Iran, la manière dont sont traitées.
Oui, mais c'est pas comme
moi, j'ai fait des sujets sur les femmes en Afghanistan quand j'étais à France 24. Évidemment que c'est profondément atroce, encore une fois, et important, fondamental d'en parler.
Quel féministe répondrait « Oh non, je m'en fiche des femmes en Afghanistan, n'importe quoi, comme
non,
si c'est ça qu'on pensait ».
Bien sûr que c'est absolument fondamental, mais c'est pas parce qu'il se passe des atrocités dans d'autres pays du monde qu'on peut pas parler des violations des droits humains qui arrivent aussi en France, et utiliser là aussi un vocabulaire qui est de circonstance.
Oui, non, mais ça n'a aucun sens.
Et donc
sens
on est vraiment qualifié
ailleurs. Mais c'est ça. Vous contenter de ce qui se passe ici.
Et donc on est vraiment qualifié de journaliste militant pour nous disqualifier souvent. Et c'est vraiment pas quand on nous donne, c'est pour ça que moi je le récuse, c'est que souvent on va pas me le donner comme un trophée, hein. C'est vraiment pour dire bon, elle est pas vraiment journaliste, et je pense pas être moins journaliste,
sauf
que
nous. Pour nous c'est un trophée.
Non, mais en tout cas je pense vraiment pas être plus engagée que la plupart des journalistes qui aujourd'hui travaillent dans le pays.
Et cette enquête que t'as menée sur les gilets jaunes, qui t'a donc bouleversée et tout, comment t'en sors psychologiquement à titre personnel de ça?
C'est marrant parce que j'en ai jamais parlé, mal, hein, clairement. Ouais. Mais après, c'est parce que moi, j'étais encore en études. J'étais en train de terminer mon master de journalisme.
On parle, juste pour recontextualiser, de quelle année?
On parle de 2018. J'ai commencé décembre 2018. C'était d'ailleurs le 8 décembre que moi, j'ai été un peu violentée par la police. Je dis un peu parce que j'ai pas eu de séquelles et que ça n'a pas été grave. En revanche, ça m'a choquée parce que je pensais être protégée.
Ouais.
Par ma carte de presse, par mon statut de journaliste. Et surtout, j'ai été témoin de violences vraiment très, très graves, là, pour le coup, sur des manifestants, des mutilations qui m'avaient énormément choquée. Donc, j'ai mené cette enquête un peu corps et âme avec ses collègues. Et j'ai beaucoup trop mis d'énergie là-dedans, sachant que j'étais pas du tout encadrée, puisque c'était pour un média indépendant, Le Vent se lève. C'était vraiment moi qui avais fait les vidéos là-bas. Donc, j'étais complètement livrée à moi-même avec ces jeunes collègues qui avaient mon âge. Et on faisait un peu comme ça. On passait le soir, on traversait la France pour aller retrouver des blessés chez eux, mutilés, avec toutes les conséquences que ça avait sur leur famille. Et encore une fois, si on n'a pas d'empathie dans ces conditions-là, je pense qu'on a un problème d'humanité. C'est n'importe qui est bouleversé. Mes collègues étaient bouleversés, j'étais bouleversée. Et j'ai voulu sortir ça coûte que coûte, non seulement en étudiant à côté, mais en travaillant de nuit à l'époque pour la télévision en plus. Et en plus, je faisais ce reportage. Donc ça faisait vraiment beaucoup, beaucoup de charges de travail, de charges émotionnelles que je n'ai pas du tout traitées parce qu'on ne nous en parle pas. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que je n'ai jamais... On n'a jamais abordé, en tout cas pas que je m'en souvienne, dans la formation à laquelle j'ai eu accès, c'est la distance ou la non-distance qu'on a parfois avec le sujet, la charge émotionnelle, le fait que parfois c'est très difficile. On est témoin de violences très très graves, parfois on a peur aussi pour sa propre sécurité physique. Et moi je ne me suis pas du tout posé ces questions. Et j'ai juste continué à fond. Il fallait sortir le truc. Ensuite c'est sorti, il fallait le promouvoir. Enfin, je ne me posais pas la question et il y a eu quand même un contre-coup. Et j'ai appris sur le tas, quoi. J'ai revu après ma manière de faire, qui a été pour moi, je pense, de mettre trop d'investissement personnel et de liens affectifs aussi avec les témoins. Parce que ce qui se passe souvent en journalisme, c'est qu'on va commencer à prendre contact avec des personnes, on tisse un lien de confiance pour qu'ils acceptent de nous parler devant une caméra. Et parfois, ces personnes vont continuer à nous parler, oui, et à nous demander aussi des conseils et à nous et en fait à nous faire rentrer dans leur vie, mais des mois après. Je peux pas leur trouver, c'est pas mon rôle en fait de leur trouver des solutions à leur situation. Moi, mon rôle, c'est d'expliquer avec le plus d'honnêteté possible et le respect des personnes ce qu'ils vivent et de l'expliquer au grand public. C'est ça mon travail.
Pour
c'est pas
des
tout le reste
qui soit trouvé derrière. Oui.
C'est ça. Aujourd'hui,
oui, mais
je
c'est
fais
fou que ce soit enseigné effectivement comme un truc qui est vraiment.
C'est fou, alors que pourtant on parle tellement souvent d'émotions, de charge mentale, de charge
mentale. Non, mais dans la médecine, oui, par exemple, c'est très. Enfin, je veux dire,
oui,
garder
oui,
la distance,
c'est
pas mettre d'affect.
Non, mais après, au contraire, la manière dont on nous parle.
Oui, mais comme on t'apprend que le journalisme, ça va être objectif, que ça va être un peu neutre et tout, bah en fait, tu vois ce que je veux dire.
Bah comme la médecine. Genre t'es censé soigner
oui, mais
en Asie,
ouais,
ouais. Enfin, c'est pareil.
Dans ton livre, il y a des témoignages de jeunes
oui.
qui ont, qui témoignent tout au long de ton livre, qui donnent leur ressenti sur cette crise climatique, mais pas que, sur la société dans laquelle on est. Moi, je l'ai lu ton livre, je l'ai trop aimé et j'ai trop envie de le faire lire à mon père. Ah. Mais avant, j'en profite que tu sois là parce que je me demande dans quelle mesure. Est-ce que tu sais s'il y a des personnes âgées, enfin, je veux dire de la génération.
Des vieux,
des vieux, mais en tout cas la génération à laquelle tu t'adresses, enfin, le livre, il est... Parce que ce que j'ai souvent dit en parlant de ton livre, c'est que je l'adore, et c'est super de le lire quand on a 20-30 ans, mais j'ai envie que ce soit les gens de la génération d'au-dessus qui
bien
le
sûr,
lisent.
Ouais.
Parce que,
moi aussi.
Parce que ça parle d'eux, enfin, c'est genre, pour résumer brièvement, c'est le sous-titre, c'est « Réponse à ceux qui critiquent la jeunesse ».
Le titre, on l'a pas dit, c'est « Sois
si,
jeune ».
Si, c'est « Sois jeune et tais-toi ». Pardon, parce que je l'ai dit dans l'acrostiche, mais oui.
Ah, pardon.
« Sois jeune et tais-toi », et le sous-titre, c'est « Réponse à ceux qui critiquent la jeunesse ». Et l'idée, c'est effectivement de... Bon, genre, je le dis à ta place.
Non, mais vas-y, bien sûr.
Mais en gros, c'est d'expliquer en quoi c'est vraiment un peu... pénible d'entendre les jeunes, ils sont feignants, les jeunes ceci, ouais. Les jeunes, ils veulent plus travailler, les jeunes, ils veulent pas voter. Parce qu'en fait, ça peut s'expliquer, si jamais on s'y intéresse un peu, par énormément de choses, de par la société dans laquelle on vit aujourd'hui, et en quoi elle est différente de celle d'il y a 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, ou même 10, 20 ans, l'urgence climatique qui est niée par encore beaucoup trop de gens, tout ça.
Oh oui.
Et donc, est-ce que tu sais qui lit ton livre ? Est-ce que tu as...
Ah bah clairement, là, moi, c'est le plus jeune. C'est effectivement l'échec de ce côté-là.
C'est vrai.
Non, alors, il y a un phénomène, c'est que ce sont les plus jeunes qui l'achètent.
Ouais.
Après, beaucoup de plus jeunes, visiblement, le passent à leurs parents, à leurs grands-parents. Donc, je pense qu'il circule dans les familles. Et surtout, je pense qu'une fois, voilà, une fois qu'il est passé entre les mains de plus âgés, il convainc une partie, en tout cas. Parce que j'ai eu vraiment des retours là-dessus.
Okay.
Mais ils sont venus plus tard. C'est-à-dire que le premier mois, le livre est sorti. Ça a quand même plutôt bien marché. C'est essentiellement des vingtenaires qui l'ont acheté.
Après, ça fait déjà du bien. Moi, je pense que c'est aussi très important de lire un livre qui te fait du bien à toi en disant « Ok,
non,
mon sentiment est légitime.
C'est ça.
Je suis pas seule dans mon sentiment et tout. » Donc, en vrai, je pense que ça, c'est quand même une vertu. Mais...
Bah, je l'ai pensé comme un outil de dialogue intergénérationnel pour permettre aux plus jeunes de comprendre l'époque dans laquelle ils vivent, de déculpabiliser aussi sur certains aspects, parce que c'est même dans l'enquête quelque chose que j'ai constaté, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient intégré leur échec personnel comme étant un échec uniquement personnel et pas collectif, alors que c'est un échec collectif sur
puis c'est
beaucoup
vraiment
d'aspects.
Pas tout à fait eux les responsables quand même,
voilà,
les
c'est
jeunes
ça.
De 20 ans, enfin, c'est... il ne semble pas que ce soit les plus coupables de...
et qui avaient eux-mêmes en fait, et c'est très intéressant de constater qu'il y avait plein de jeunes qui ont intégré les discours anti-jeunes et qui eux-mêmes pensent qu'ils sont une génération finalement pas très bien, qui est gangrénée par les écrans, qui est une génération paresseuse. Il y a beaucoup de jeunes qui répètent eux-mêmes les clichés sur leur propre génération.
Les mascus coachs en séduction de 20-30 ans sur les réseaux sociaux, c'est vraiment des gens qui déclarent ces discours-là, vraiment, qui traitent les jeunes de flemmards.
Alors qu'ils sont jeunes.
Oui.
Ah oui, oui.
Mais bah, c'est...
Oui, mais eux, ils sont différents.
Ça va.
Eux, ils sont différents, ils font de la muscu.
Ah oui,
ils perdent pas leur
forcément.
Temps. À...
Non, mais il y a plein de jeunes qui pensent que les autres jeunes de leur génération sont nuls et que. Et en fait, ils essaient. Ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'ils essaient d'apporter des réponses aussi à leur mal-être personnel, au mal-être de la société dans laquelle on vit. Et donc, avec ce livre, ça me permettait de montrer à plein de jeunes qui ne sont pas seuls, qui ne sont pas seuls à avoir ce ressenti, que ce qu'ils subissent économiquement, socialement, peut expliquer une partie de la situation dans laquelle ils se trouvent, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans une grande détresse économique, dans une grande détresse en termes d'études, en termes de choix de vie, une grande détresse psychologique. Je rappelle qu'il y a un jeune sur cinq, selon une étude de Santé publique France qui est parue en février, un jeune sur cinq qui présente des troubles dépressifs. C'est absolument colossal. On a un énorme problème de santé mentale du côté de la jeunesse. Et ça, c'était intéressant de le montrer. Et j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages, surtout sur les questions... vraiment de choix de carrière, de santé mentale, de jeunes qui me disaient ça fait du bien de voir qu'on n'est pas seul, ça fait du bien de voir aussi qu'il y a peut-être d'autres outils qui existent, et c'est des outils qui peuvent être collectifs au lieu d'être ces fameux outils individuels. Donc il y avait vraiment ce côté-là, et évidemment je ne l'ai pas pensé que pour les jeunes.
Bah non.
Et là déjà en fait le problème fait partie de, enfin de dans les achats de livres, c'est, on voit le problème, c'est que c'est les jeunes qui vont s'intéresser au problème de jeunes, et c'est ce que je décris.
Oui, bah c'est
dans
les féministes qui achètent les livres féministes et tout ça, enfin de toute façon on est globalement aussi là-dessus,
mais c'est un vrai souci. Parce que sur les questions de précarité financière, par exemple des jeunes, on constate que ceux qui finalement aident le plus les jeunes, ça va bien sûr être la famille, et ensuite ça va être les jeunes qui vont créer des associations de... Par exemple, pendant le Covid, les plus grosses associations qui sont créées de banques alimentaires à destination des étudiants pour permettre aux étudiants de se nourrir en période de pandémie, ça a été des étudiants qui l'ont créé. Bah oui. Donc il y a eu cet effet de jeunes, de solidarité de jeunes, souvent les plus privilégiés, qui savaient ce que vivaient les autres jeunes puisqu'ils étaient en études ensemble, qui se sont mis à vouloir les aider, à vouloir créer aussi des associations pour aider des jeunes psychologiquement, pour aider des jeunes... Je dis pas du tout qu'il n'y a pas de plus âgés qui les aident, je dis juste la dynamique vient beaucoup des plus jeunes, en tout cas dans plein de domaines, et qu'on a parfois des plus âgés qui ne veulent même pas s'intéresser à ça. Et le livre, c'est typique, et c'est pour ça que j'espère qu'il circule dans les familles, et j'ai l'impression que ça fonctionne, mais souvent, pour que des plus âgés achètent le livre, alors que pourtant, je suis passée quand même dans pas mal de médias, télévision et radio, qui sont avant tout écoutés par des plus âgés, donc j'ai pu exposer le problème, j'ai pu exposer mon propos, mais clairement, ceux qui l'ont acheté, c'est les plus jeunes. Ça veut dire que les plus âgés qui ont écouté ce que je racontais se sont dit bon bah pas mon truc quoi.
Elle parle pas de
nous. Je vais pas aller acheter. Alors que pourtant c'est eux qui ont le plus de moyens financiers qui permettraient d'acheter le livre.
Oui mais parce qu'en fait le risque qu'ils prennent c'est de se dire on va se faire crier dessus pendant 300 pages. Sauf que je sais que ce n'est pas ça.
Même dans mes interventions je passe mon temps à préciser. Mais bon. C'est marrant parce que j'étais passée sur France Inter dans une émission justement où j'avais le temps d'exposer un peu mon propos, et il y avait des retours d'auditeurs.
Okay.
Et dès le début, je disais, c'est pas un livre anti-boomer.
Non, mais c'est la première page du livre, ça.
C'est la première page. C'est pas un livre pour accabler des générations précédentes. Ça n'aurait strictement aucun sens. Je cherche pas à stigmatiser une génération. Je cherche pas non plus d'ailleurs à dire que les jeunes sont mieux que les vieux.
L'honnêteté intellectuelle.
J'ai essayé de surtout pas dire que tous les jeunes, d'ailleurs, il n'y a pas une jeunesse, mais il y a des jeunesses, que les jeunes sont pluriels, qu'il y a plein de caractéristiques qui sont différentes. Donc j'ai essayé d'apporter ça, et pourtant la quasi-intégralité des réactions des auditeurs ont été d'appeler, mais de vraiment faire d'arriver en masse pour dire oui mais moi j'étais pas comme ça, ou moi les jeunes que je connais, et en fait je suis en train de vous parler de statistiques, je suis en train de vous parler de tendances d'une enquête journalistique, et ils se sentent piqués. Et quand on défend les jeunes, il y a un réflexe d'une partie des plus âgés qui est de dire... Vous voyez, je dis une partie. Je vous assure que s'il y a des gens qui écoutent le podcast, ils vont se sentir quand même piqués. Alors j'ai dit une partie, parce qu'ils vont avoir l'impression que je dis tous les plus âgés. Et donc il y a une partie des plus âgés qui se sent piqués immédiatement dès qu'on dit que quand même les jeunes c'est dur et qu'ils vivent des choses très difficiles. Ils vont se dire oui mais moi de mon temps, et ils vont avoir cette espèce de réflexe qui est en fait très délétère, et qui n'est pas que un truc qu'on entend dans les dîners de famille. Ça a des conséquences, ce que je montre dans le livre, en termes de médias, en termes de politique publique, en termes d'infrastructures aussi à destination de la jeunesse, et en termes de santé mentale des jeunes, puisqu'à force de ne pas être écoutés, ils ne sont pas compris, ils ne se sentent pas compris, et pour certains ils plongent dans une indifférence absolue, et c'est un problème de société majeure. C'est pas quelques jeunes dans leur coin qui sont devant leurs jeux vidéo et du coup qui sombrent dans, comme on peut avoir cette espèce de cliché, c'est pas du tout ça. Et donc il faut absolument trouver des solutions à ce problème, et pour trouver des solutions il faut qu'on ait une prise de conscience collective, et la prise de conscience ne peut pas être que du côté des jeunes. Ça, c'est pas possible, ça ne va pas fonctionner. Et là effectivement on voit qu'on lutte encore un petit peu pour faire comprendre les problèmes des jeunes sans les caricaturer auprès des plus âgés, et à susciter l'intérêt nécessaire chez ces plus âgés qui ont tendance à vouloir se conforter, pour une partie d'entre eux, encore une fois, dans les clichés qu'ils peuvent avoir, les idées reçues, ce qu'ils ont pu entendre dans les médias. Là, encore ce matin, il y avait un débat sur BFM. Les jeunes sont-ils paresseux ? Enfin,
À moins que la réponse soit non à la fin du débat.
Il y avait quand même un jeune pour défendre.
C'était... Non, je suis pas flemmard. allez, suivant. Mais j'allais dire, moi, j'ai lu du coup la moitié de ton livre, et j'ai vraiment des moments où j'ai pleuré. J'ai vraiment eu des larmiches sur des témoignages de jeunes. Je me suis vraiment dit, putain, c'est terrible, bref. Et oui, je l'ai pas fini parce que je suis très lente à lire, je lis que des BD, mais voilà, je vais...
Je comprends.
Et je tenais à le lire, en tout cas. Et je me suis imaginé, ouais, je pense qu'il marcherait très bien dans les mains de mes parents, mais pas de ma grand-mère. Je me dis vraiment...
Non, qu'est-ce qui manquerait, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui...
Mais parce que je pense que je peux lui sortir
tous les chiffres du monde, toutes les études du monde, tous les trucs les plus, comme tu dis,
prouvés, académiques. Moi, j'ai essayé de m'appuyer sur un travail universitaire.
Académique, et vraiment, il y a une neutralité dans ton livre qui est vraiment... je vous donne les faits, je vous donne les infos, c'est comme si que ça se passe, je ne vous tape pas dessus. Enfin, vraiment, je
elle va
c'est...
balayer.
Mais elle, mais je pense qu'à la fin, elle dira « Ouais, enfin quand même, hein, moi, je me rappelle que... » Mais c'est sûr mais ouais, moi, c'est je terrible. Me rappelle qu'on bossait tous, je bossais à 17 ans, je suis... Mais bon, tu lui dis, oui, mais toi, quand t'as acheté ton appart à Paris, il coûtait 50 000 euros. Maintenant, ça coûte 800 000 euros d'acheter un appart à Paris. Oui. Enfin, tu sais, genre, t'es. Oui, mais.
Moi, il y a une autre.
Oui, partout, quoi.
Ça, honnêtement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de réponses parce qu'effectivement, on est vraiment sur beaucoup de mauvaise foi. Moi, je me souviens de mon père quand.
Il y a un problème.
Je crois que c'est
ce
l'été dernier.
Hein.
Ben non, mais c'est un gros, c'est gros, un problème, gros problème. Mais pour le coup, on est démunis. Mais du coup, si jamais t'as une piste, moi, je sais que mon père, il m'avait. L'année dernière, ou il y a deux ans, je sais plus, je lui ai vraiment parlé de l'urgence climatique, mais en mode. En fait, c'est gravissime. C'est pas juste un peu. Compliqué, c'est gravissime.
Et c'est pas une opinion.
Et c'est pas une opinion et tout. Et il m'avait dit, alors qu'il est vraiment de gauche et vraiment très canard enchaîné, ouais, tu vois, mais il m'avait dit, oui, bah on fait quoi? On se suicide tous alors? Et j'étais là, genre, je savais pas quoi répondre à ça.
Ah bah si,
on passe à autre chose parce qu'en fait, enfin, je.
Mais c'est pour ça que.
Pour lui, si. En gros, pour finir l'idée, c'est pas tellement on doit se suicider, mais c'est plus de si on accepte à 100% la gravité absolue, alors il y a. Plus d'espoir.
Et,
on fait quoi de toutes nos journées à vivre, en fait? Enfin,
en fait, je trouve ça intéressant ce que tu racontes parce que c'est très révélateur de à quel point on a infusé les idées néolibérales dans la société. Les idées capitalistes. C'est-à-dire qu'on n'envisage plus d'autres systèmes que le système productiviste, extractiviste. Je dis capitaliste, c'est pas un gros mot. Système. On pourrait utiliser néolibéralisme parce que c'est plus précis, mais c'est le système économique dans lequel on vit aujourd'hui et qui est celui aussi qui est adopté dans de très nombreux autres pays, y compris des pays qu'on pourrait penser communistes, mais en réalité qui reposent aussi sur ce même système-là. Et on a beaucoup plus de capacité à imaginer la fin du monde qu'à imaginer la fin de ce système économique-là. C'est quand même fou. C'est-à-dire que ça nous est... L'idée que c'est la fin de l'histoire de Fukuyama, que c'est cette... Voilà, c'est ce système-là, le bon, il n'y en a pas d'autre, qu'il n'y a pas d'alternative.
Oui, mais il y en aurait pour des politiques ou pour des dirigeants d'entreprise, mais pour monsieur, madame, tout le monde,
mais c'est là
concrètement,
où...
je peux comprendre
c'est là où
que...
ils sont trop forts. Non, mais c'est là où ils sont forts, et c'est là où on a échoué collectivement. C'est qu'on a échoué à envisager un autre avenir collectif et qu'on ne pense plus que le changement par le prisme individuel et on n'arrive pas à imaginer que un jour, si vous demandez aux gens là dans la rue comme ça, est-ce que vous pensez que c'est possible qu'il y ait un vrai soulèvement collectif pour changer profondément le système économique dans les limites aussi de temps dans lequel on est auquel on est restreinte, la plupart des gens vont vous répondre que non, c'est pas possible parce que ça paraît inenvisageable. Et c'est là aussi encore une fois toute la force de cette idéologie qui a infusé, et je parle bien d'idéologie sur le plan économique, j'en reviens à ça, et c'est pour ça que moi mes émissions d'économie m'éclairent beaucoup là-dessus. C'est que le système dans lequel on est une alternative parmi de très nombreuses alternatives. C'est un choix parmi de très nombreux autres choix. Et on a réussi à nous faire croire que c'était le choix de la raison, le choix le plus réaliste. C'est aujourd'hui vraiment des mots qui sont utilisés
c'est le choix
par
de
le président.
L'argent.
Non, et par le président en personne. C'est qu'on va vous dire que ce n'est pas pragmatique. Alors que ce qui n'est pas pragmatique, c'est de penser qu'on peut continuer avec ce système-là alors qu'on n'est pas dans le cadre des limites planétaires. Et c'est ce que s'évertuent à nous dire les climatologues, les scientifiques, toutes les personnes qui travaillent sur ces questions-là.
C'est un manque d'options, effectivement. C'est... Je pense qu'on n'envisage pas une autre option.
En fait, là, on est en train... on a une option de vraiment très très sombre qu'on est en train de choisir, qui est un peu une des pires options aujourd'hui, qui est celle de foncer dans le mur, est celle de, encore une fois, il faut rappeler de quoi on parle quand on parle de ce que va produire notre système économique et politique aujourd'hui.
Quand on parle de foncer dans le mur, c'est...
Quand on parle de foncer dans le mur, c'est d'avoir à très très court terme des problèmes d'approvisionnement en eau, en nourriture, d'avoir des problèmes de sécurité, d'accès au transport, d'accès à l'habillement, d'accès évidemment à la stabilité de nos démocraties. C'est d'ailleurs les rapports du GIEC en parlent aujourd'hui. C'est le fait qu'on va avoir de l'instabilité politique.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Là, j'ai écouté ce matin sur France Inter une chronique qui disait que justement, il commence à y avoir des instabilités à la frontière entre l'Afghanistan et l'Iran à cause du détournement d'un fleuve, parce qu'en fait, l'eau va devenir une denrée précieuse. Et évidemment, je ne vous parle même pas de l'accès à l'énergie dont on a commencé à faire les frais avec la guerre en Ukraine. Donc, c'est de ça dont il est question. C'est-à-dire que tous nos modes de vie tels qu'on les connaît sont profondément menacés à très court terme. Et face à ça,
effectivement, la réponse de ton père qui dit ça paraît très surtout que lui, il lui reste. Il a 60 ans, donc il lui reste
et c'est là.
La vingtaine d'années. Et,
et c'est là où la question générationnelle intervient, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est qu'il y a des alternatives qui vont demander des changements. Encore une fois, je ne considère pas que prendre les mesures nécessaires en termes d'écologie, c'est un sacrifice. Le sacrifice, pour moi, c'est de continuer avec le système.
Toute la jeunesse.
C'est parce qu'on dit souvent l'inaction climatique, je ne suis même pas d'accord avec ça. C'est l'action de détruire. C'est aujourd'hui ce qu'on fait.
Camille Etienne, absolument, mais sur France Inter la semaine dernière.
Je suis complètement d'accord avec elle là-dessus. Et on a complètement un problème de vocabulaire, de lexique, d'imaginaire, d'idéologie qui a infusé là-dessus. Et les solutions existent. Et c'est pour ça que dans un livre sur les générations, on pourrait se dire, mais pourquoi elle nous parle de climat pendant un chapitre entier ? J'ai choisi de rappeler et d'interviewer des climatologues, d'interviewer des scientifiques qui nous rappellent que des alternatives existent, qu'elles ont été théorisées, qu'elles ont été pensées, qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus toute la journée. Il y a le dernier volet du rapport du GIEC, qui est donc le troisième volet, qui est consacré uniquement aux solutions, qui ne sont pas préconisées, parce que le GIEC ne préconise pas, mais qui sont proposées, qui sont mises en évidence pour montrer les différents scénarios qui existent avec toutes les formes de transformation du côté de l'agriculture, du côté de l'énergie, du côté de tout ce qu'on pourrait faire. Il y a littéralement des milliers d'experts qui planchent sur ces questions depuis des années, qui ne demandent qu'à être entendus. Et aujourd'hui, on fait le choix de ne pas les écouter. Mais c'est un choix. C'est un choix collectif qu'on fait. Et on pourrait complètement faire autrement. Et c'est là où on revient sur la question générationnelle. Et c'est marrant, t'as dit, moi, mon père, il a plus de 60 ans. Il va pas vivre ça. Et c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose qui est très embarrassant quand on parle de climat. Et même, c'est un peu le sujet, l'éléphant dans la pièce quand on parle de climat dans les milieux écolos. C'est qu'on ne veut pas se dire, bon, c'est de la faute de nos grands-parents. On ne veut pas blâmer une génération. Encore une fois, je pense que blâmer ne sert à rien. En revanche, on peut. On peut constater les inégalités générationnelles. Ce que nous dit le dernier rapport du GIEC, c'est qu'une personne qui est née en 2020 va subir 7 fois plus de vagues de chaleur qu'une personne qui est née en 1960.
Bah après, l'humain est adaptable. Il y a aussi cette question de on va vivre avec.
Bah ça dépend quel humain.
Je pense qu'il y a aussi ça.
On va pas vivre avec. C'est ça où il va falloir. Il va y avoir des morts. Ça va tuer, bien sûr.
Est-ce que du coup, parce que par exemple, Macron, en vrai, il est pas vieux. Donc il y a certains représentants politiques qui sont pas vieux. Mais du coup, c'est en ça où il y a le rapport de classe. Et que c'est un sujet qu'on a du mal aussi à faire arriver. C'est que c'est extrêmement classiste. C'est aussi un gros rapport de classe, la crise climatique. Et c'est aussi pour ça, peut-être que nos dirigeants, qui ne sont pas forcément vieux, parce que ceux qui sont vieux, à la rigueur, effectivement, eux, ils vont balayer. Mais ils ne vont pas le subir parce qu'ils auront techniquement l'argent et les moyens de se protéger de tout ça.
Mais c'est là où je pense qu'il y a un déni.
Bien sûr, de toute façon, le choix de ne pas aller vers ce monde moins capitaliste que l'on réclame pour se porter mieux, s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils n'en ont aucun intérêt et qu'ils auront des solutions.
C'est ce que dit
Camille Etienne dans son intervention qu'on disait juste avant chez France Inter. Elle disait, mais en fait, les hommes de pouvoir, les gens très très riches, ils auront toujours une solution, ils auront toujours accès à l'eau,
ils
auront toujours.
Mais ils se trompent.
Et en plus, ils se trompent probablement.
Ils se trompent. Non, mais c'est là où c'est intéressant.
Ils pourront pas aller sur Mars.
Je suis convaincue
qu'ils vont s'en sortir.
Non, pour l'instant, ils achètent un délai. Ils vont pouvoir s'acheter, effectivement, ils vont vivre mieux plus longtemps. C'est là où il y a une question.
Oui, mais pour leurs enfants, ils seront protégés aussi, parce que, à plus ou moins court terme, mais je veux dire, pour l'instant, l'argent achète tout.
Alors après, là, pour le coup, c'est effectivement une opinion personnelle, mais moi, je suis convaincue qu'il y a un moment, quand on va loin dans les projections du GIEC, donc là, je parle pas dans
20 ans,
dans 20 ans. Ce que je disais, ce que soulignent aussi les rapports du GIEC, c'est l'instabilité politique que ça va créer. Il y a un moment où vous aurez beau avoir tout l'argent du monde, si l'argent ne vaut plus rien.
Déjà, c'est vraiment cool, politiquement.
Mais je veux dire, s'il y a des crises économiques majeures, s'il y a des bouleversements économiques énormes, si on a vraiment des problèmes d'accès aux denrées rares qui sont... Alors, je veux pas être... Vous savez, il y a toutes les théories de l'effondrement, on pourrait en discuter, mais c'est des théories qui sont quand même à prendre au sérieux, même si c'est pas la théorie validée par tout le monde. Je pense qu'il y a un moment où l'argent ne suffit plus. Et que même avec tout l'argent du monde sur une planète qui a plus 4 degrés, où il n'y a plus d'espace naturel, où la biodiversité s'est effondrée, où on n'a plus accès à de l'air pur, où on est obligé d'être enfermé dans certains endroits.
Oui, mais
endroits.
En tout cas, c'est les premiers qui ont accès aux nouvelles technologies.
Oui, je veux dire, est-ce que c'est désirable, même pour ces enfants de milliardaires? Je ne suis pas convaincue d'être entre milliardaires. Et c'est là où ils se pourvoient. Et c'est pour ça que tu as parlé de question de classe. Je pense que c'est indissociable de la question générationnelle et que ce serait une erreur totale de traiter la question climatique par le biais uniquement générationnel. C'est même un piège, hein, faut surtout pas faire ça. En revanche, on peut pas l'évincer parce qu'il y a quand même une dimension générationnelle. Et pareil, quand on parle de classe, je pense qu'il faut pas non plus évincer la question générationnelle et parler uniquement de classe parce que c'est aussi une profonde inégalité. C'est que nous allons subir, là, nous, autour de cette table, beaucoup plus les conséquences du dérèglement climatique et de la biodiversité que nos parents ou nos grands-parents. On va beaucoup plus en payer le prix. Et encore une fois, de quel prix on parle ? C'est quelque chose qui peut être très sombre. Et donc, au lieu de paralyser, et c'est ce qu'essaie de souligner Camille Etienne dans son essai qui est paru là, très récemment, c'est qu'on nous fait croire qu'on est impuissant. Et on a vraiment les capacités matériel, politique, économique, de changer ça, y compris à l'échelle de la France, parce qu'on nous dit toujours que mais la Chine, mais l'Inde, tout ça.
Bien sûr.
On peut totalement se protéger. Sur toute la question de l'adaptation, qui est un des grands, encore une fois, volets du GIEC, on peut totalement adapter notre territoire à beaucoup de conséquences du dérèglement climatique. On peut totalement répartir les richesses d'une certaine manière. On peut relocaliser la production de nombreuses choses.
Mais pourquoi ils ne le font pas ?
Ah bah parce que enfin, là, il y a une inertie.
Répondre en deux secondes,
mais... Il y a une inertie politique et je pense qu'il y a un déficit de. Bah, je pense qu'il y a deux choses. Il y a un déficit d'information. Je pense que les gens...
Ils ont accès quand même.
Non, oui, mais entre y avoir accès et vraiment les intégrer, il y a quand même une différence. Je pense qu'il y a un...
C'est quand même leur métier, il me semble, au gouvernement.
Tu parles du gouvernement, je croyais que tu parlais de... Non, le gouvernement, parce que clairement...
Je parle des décideurs.
Mais parce que les décideurs actuels en France ne travaillent pas pour l'intérêt public.
Ça, oui, mais même eux, leur intérêt, c'est ça, vu que vous étiez en train de parler du
fait qu'ils sont convaincus qu'ils vont être protégés.
Leur intérêt personnel...
Ils sont convaincus qu'ils vont être protégés. Je pense que c'est toute l'erreur.
Donc vous pensez qu'ils se trompent, mais qu'eux, ils se pensent protégés.
Ah oui.
Et que c'est pour ça qu'ils, pour l'instant, ils s'en foutent
un peu. Mais tu vois, vous avez vu ou pas la manif devant Total, comment on dit, la commission
L'Assemblée générale.
L'Assemblée générale de Total, il y a quelques jours, il y a eu un rassemblement de 700 personnes devant.
Oui.
Une manifestation pacifiste, vraiment, non violente. Bon, ils ont subi des violences policières, c'est pas le sujet là, mais je voulais quand même le dire.
Oui, ça va.
Il y a un très vieux monsieur, mais vraiment il est vieux, et il arrive et il bouscule tout le monde pour rentrer dans son assemblée, pour aller faire son assemblée totale. Et puis il est confronté à une jeune qui lui dit « Mais monsieur, c'est pour notre planète !» Et il répond « Mais je m'en fous de votre planète !» Et ça, du coup, qu'est-ce qui est à ce moment-là dans la tête de ce monsieur quand il dit « Mais je m'en fous de votre planète ?» Il prend pas au sérieux, il s'en fout vraiment, il sait qu'il va mourir demain. Il se dit qu'il va se prendre un pactole avant de mourir et c'est ok. Enfin,
je ne comprends pas, je n'arrive pas. Il se dit
comment on peut avoir si peu d'empathie.
Ils se sont convaincus parce que c'était beaucoup 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 plus simple. Ils se sont convaincus que tout ça était faux.
Ouais.
Ils n'y croient pas du tout
au dérèglement climatique.
Après, je suis pas persuadée que ces personnes soient majoritaires dans la société. Il fait partie, je pense, de. On parle quand même d'actionnaires de Total Energy qui sont présents à une assemblée générale à Paris, donc en pleine semaine. C'est quand même voilà.
Oui, mais tu vois, je pense que ma grand-mère, elle y croit pas trop au dérèglement climatique et qu'elle est un peu en mode, on s'en fout.
Ah ben, je pense que là, et c'est là où ça fait mal. Encore une fois, j'insiste sur une partie des plus âgés, mais il y a une forme d'égoïsme une partie d'entre eux qui refusent de s'intéresser à cette question et qui pensent qu'ils ne font plus partie des combats et que c'est plus à eux de changer les choses.
Et pourtant, ils vont voter quand même.
Et ce que j'essaie de montrer, j'en parle pas mal dans le livre,
c'est que... Je t'ai montré du doigt. On citait
elle ici, là.
Infect, ce que je viens de faire.
Ça aurait pu être minute.
Elle, là,
elle
en parle. Salomé.
Non, mais clairement...
Je sais pas si tu connais Salomé Sake.
C'est une journaliste.
Oui, je connais.
Journaliste militante.
Engagée.
Non, mais clairement, il y a un phénomène. C'est là où on a un phénomène générationnel qu'on peut pas occulter. C'est que, par exemple, quand on regarde les différents sondages que je cite dans le livre, qui est le plus inquiet face aux conséquences du dérèglement climatique, ce sont les jeunes. Pourtant, tous les jeunes ne sont pas des militants écolos, tous les jeunes ne sont pas forcément engagés. En revanche, ça les inquiète. Les plus âgés, ça les inquiète beaucoup moins. Mmh. Parce qu'objectivement, ils vont moins subir ça. Et on ne peut pas dire que c'est pas une réalité.
Je pense qu'ils ont aussi une expérience de vie. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à toutes les étapes de leur vie, tous les 10 ans, il y a eu une crise, il y a peut-être eu quelque chose qui était très présent politiquement ou dans leur monde.
Oui,
et qu'en fait, à chaque fois, ils sont adaptés. Oui, aussi qu'il y a de ça. Moi, j'ai déjà entendu aussi ça de « Eh, mais nous, de notre temps, on avait ça comme problème. » Et en effet, c'est passé, ils sont passés à autre chose. finalement on s'en est remis et tout.
Je pense qu'il y a vraiment plein de vieux qui se disent qu'on va s'en remettre.
Oui, que c'est quelque chose parmi d'autres, ouais. Parce qu'ils ont vécu déjà plein de crises potentiellement.
Mais d'où le déficit d'information. Ouais. D'où le fait que moi je suis journaliste, parce que je pense que c'est aujourd'hui un des combats principaux à mener, la bataille de l'information, et de faire comprendre, de vulgariser ce que nous disent, pas des scientifiques, mais le consensus scientique. Oui, c'est-à-dire, le GIEC aujourd'hui, c'est le concentré du savoir.
C'est pas l'avis de quelqu'un.
Du savoir scientifique actuel, international, tout pays confondu, ils sont d'accord sur ça. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que les scénarios du GIEC, c'est un peu le minimum syndical de ce qui va se passer. Et souvent, là, ce qu'on constate, c'est que ça va beaucoup plus vite que ce qu'eux ont prévu. Parce qu'en fait, ce qu'ils nous sortent, eux, c'est vraiment le consensus de chez consensus. C'est là où tout le monde est vraiment d'accord pour dire qu'à minima, il va se passer ça. Et le à minima fait déjà très, très peur. Et donc, je pense qu'effectivement, on ne connaît pas bien les enjeux et on ne mesure pas. Alors, il y a aussi des jeunes qui ne mesurent pas, mais globalement, du côté des plus âgés, on ne mesure pas. Et pourtant, et c'est là où il y a quand même un conflit générationnel, ce sont aujourd'hui les plus âgés qui sont en train de décider de notre avenir. Et ça, on le constate, tu as parlé du vote, c'est un des grands enjeux.
C'est eux qu'on a protégés le maximum pendant la pandémie, c'est même s'il y avait plein d'autres gens à risque. Et c'est eux qu'on va protéger quand il y aura la canicule et les 50 canicules qui vont arriver.
Mais j'insiste, c'est pas, je veux pas développer un discours anti-vieux. Non, mais parce que ça peut donner cette impression...
Moi, c'est ma parole à moi.
Je dis juste, c'est un constat, les plus âgés ne votent pas. Aujourd'hui,
les plus âgés votent.
Non, ne votent pas pour. Ne votent pas pour des partis qui préservent notre avenir. C'est-à-dire qu'ils ne votent pas pour des partis qui prennent en compte les questions écologiques dans leur programme. Ils votent en France pour des partis conservateurs, des partis qui ont été jugés par les scientifiques, par les différents observateurs lors des dernières élections, comme des partis qui avaient des programmes plus qu'insuffisants, voire inexistants en matière d'écologie. C'est là que s'oriente le vote des plus âgés. Le vote des plus jeunes, le principal vote, c'est l'abstention. Hein, la plupart des jeunes ne votent pas, mais quand ils votent avant tout pour l'écologie. Et pas pour l'extrême droite d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, même s'ils votent aussi pour l'extrême droite, mais c'est quand même avant tout l'écologie. Donc là, on a quand même un phénomène générationnel qui est que les plus âgés votent plus, et surtout les plus âgés sont plus nombreux, puisque les plus de 60 ans représentent deux fois plus démographiquement en France que les 18-29 ans. Donc en fait, quand bien même tous les jeunes demain se mettraient à voter, tous les jeunes iraient voter pour l'écologie,
ils sont toujours le double,
ils ne pourraient pas contrebalancer le vote des plus âgés, et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un sursaut du côté des plus âgés, parce que là on parle du vote, on pourrait aussi parler de leur présence dans les entreprises, dans les actionnaires de Total, il y a beaucoup qui sont à la retraite, il y en a beaucoup qui ont un certain âge, il y a beaucoup qui ont des positions de pouvoir dans les institutions politiques, dans les médias, dans effectivement les entreprises, dans le monde économique, et c'est ces personnes-là qui détiennent l'écrasante majorité également du patrimoine économique et financier du pays. Et on a une échéance extrêmement courte, c'est-à-dire que là il faut agir maintenant. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ce sont les plus âgés qui ont le pouvoir. C'est eux qui décident maintenant de notre avenir plus tard. Enfin, c'est quand même, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas revenir sur les décisions qui ont été prises aujourd'hui. On ne pourra pas reconstruire quelque chose de désirable derrière eux, même une fois que les jeunes d'aujourd'hui seront au pouvoir demain.
Donc on est foutus.
Non, on n'est pas foutus. Bah moi, je ne crois pas qu'on est foutus, parce que je suis convaincue qu'on peut convaincre les plus âgés de prendre conscience déjà de ce qui se passe, de leur faire prendre conscience de leur rôle, de leur responsabilité et de leur pouvoir d'action. Alors il y en a, encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire tous les plus âgés, il y a des gens qui votent écolo du côté des plus âgés, qui sont engagés dans des stations écologiques depuis 50 ans, et ils existent, mais ils ne sont pas majoritaires. Ils ne sont pas majoritaires. Et s'ils ne le deviennent pas, ou en tout cas s'ils ne deviennent pas vraiment beaucoup plus puissants, notre avenir est compromis. Et c'est ce qu'oublient beaucoup de personnes âgées. Parce que si vous leur demandez est-ce que vous voulez condamner l'avenir de vos enfants ou de vos petits-enfants, personne ne va vous répondre que oui, enfin, à part quelques vraiment des misanthropes, mais ou brouillés avec leur famille. Mais globalement, personne ne vous répond ça. Et c'est là où je pense qu'il y a une dissonance cognitive. C'est que si vous demandez aux plus âgés, encore une fois, je ne connais pas de plus âgés qui vont vous dire ah ouais, non, moi, mes enfants et mes petits-enfants, je m'en fous. Mais non, ils pensent que la solution sera individuelle et que de toute façon, ils protègent leurs enfants et leurs petits-enfants. Et s'ils ne mettent pas en place, ils ne nous aident pas à mettre en place immédiatement des solutions collectives qui, encore une fois, existent, ça ne sera pas suffisant. Et ils participent à condamner. On parle de condamner des avenirs.
Oui, enfin, on ne peut pas leur enlever le droit de vote, tout simplement.
Non, bah moi, je suis démocrate. Je pense à titre là, c'est pas un avis journalistique, c'est un avis personnel. Je reste convaincue qu'évidemment, il ne faut pas retirer le droit de vote à qui que ce soit, mais qu'il faut convaincre et qu'il faut convaincre et vite. Donc c'est pour ça que j'ai
ça me paraît un peu utopique, parce que ils trouvent pas leur intérêt
convaincre
individuel
vite, quoi.
Et qu'on est dans un monde infiniment individualiste et qu'ils n'y trouvent pas leur intérêt individuel.
Là, la question que vous soulevez, c'est est-ce que les vieux sont égoïstes? Moi, je fais le pari que non. Je fais le pari qu'avec mon livre entre les mains ou d'autres informations, mon livre c'est concentré d'informations
avec une envie de s'informer et avec des informations comme ton livre entre les mains, non, ils le sauront peut-être moins. Non, mais le pas pour le faire, de toute façon, oui. Il est mort, ils le font pas. Enfin,
bah,
moi, je suis team Pierre-Emmanuel Barré. Les vieux, ils me cassent la tête. Enfin, je pense que le droit de vote après 80 ans, bisous.
Non,
mais
là,
quoi.
Oui, on parle de 80 ans, c'est même extrême.
Ouais,
mais...
c'est vrai.
Mais
ou sinon, le droit de vote à partir de 15 ans, dans ce cas-là. Parce que pourquoi les plus jeunes des plus jeunes, ils pourraient pas voter dans ce cas
oui, mais pour, ça, on en revient de
la
toute
planète
façon, la
sur laquelle
ils
vont
vivre. C'est que ça de toute façon, ils sont pas moins nombreux et ah qu'en plus de ça, ils vont aller voter pour quel parti là aujourd'hui qui représente la jeunesse.
Et puis les jeunes ne votent moins de base. Ils ont toujours moins voté depuis que la démocratie représentative existe. Il faut rappeler que les jeunes sont à un moment, ils se construisent, que les jeunes n'ont pas pour préoccupation à 15 ans de sauver le monde. C'est une question qui a été beaucoup posée à Greta Thunberg, à Camille Etienne.
Il y en a deux, trois. Quoi.
Allez-y, donnez-nous la solution. Maintenant, vous qui êtes sur un plateau et qui avez 20 ans ou 16 ans, et elle, à chaque fois, la réponse est toujours la même. Mais c'est, je suis écolière, en fait. Je ne peux pas résoudre la crise climatique mondiale toute seule. J'ai besoin que vous... qui avait les pouvoirs, qui avait l'expérience, la connaissance, qui êtes en nombre, vous trouviez les solutions pour
vous
préserver.
Bosser,
non, mais que nous, on vous aide et qu'on adhère et qu'on
encourage
et qu'on essaie
jeunes,
de se mobiliser. Mais il faut rappeler qu'à 15 ans, 16 ans, 20
t'as pas
ans,
les armes.
On est en construction. Pour revenir, peut-être les gens nous écoutent, se disent « Oh là 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 là, c'est foutu qu'est-ce
clair.
Que c'est que ce podcast de merde ?»
T'es pleine d'espoir, nous.
Non, mais je suis... En fait, on n'a pas d'autre choix. Soit on se résigne et on dit ok, on suicide tous. Soit on se dit ok, il y a
Patrick
des solutions. Soit on se dit bon, il y a des solutions, elles existent. C'est tellement dommage de ne pas les mettre en place.
Ouais.
Et pour les mettre en place, on a besoin que tout le monde se mobilise.
Ouais.
Et pour que tout le monde se mobilise, on a besoin que les gens soient convaincus et motivés. Et pour que les gens soient convaincus et motivés,
il faut
aller
le
les convaincre
et les motiver.
Aussi dans les... Moi, pour moi, l'arme la plus puissante, c'est dans les familles. Parce qu'on n'a pas envie peut-être de sauver les enfants des autres, mais on a peut-être envie de sauver ses propres enfants et ses propres petits-enfants. Moi, j'ai constaté auprès de mes proches qui n'étaient pas du tout de mon bord, que quand même il y a un infléchissement, il y a quand même des discussions qui ont été amorcées,
ça a évolué, ça prend du temps,
mais on n'a pas le choix que d'essayer. Donc il y a quand même quelque chose à faire de ce côté-là et à avoir des armes intellectuelles, ce que j'ai essayé de proposer, pour leur dire, attends, là l'idée reçue que tu es en train de me balancer, il se trouve que les chiffres de l'INSEE, qui est une institution de statistique officielle, disent exactement le contraire. Quels sont tes chiffres à toi, à part la manière dont toi tu as perçu ta jeunesse, qu'est-ce que tu peux me donner d'autre que ton anecdote de quand t'avais 20 ans? Et souvent, il n'y a pas grand-chose d'autre. Et donc, on peut vraiment faire progresser ce dialogue-là. Encore une fois, l'agressivité ne nous permettra pas d'avancer, la culpabilisation ne nous permettra pas d'avancer, même si factuellement, ils sont responsables. C'est un peu une des conclusions du livre, je spoil, mais ils sont responsables factuellement de la situation dans laquelle on est. Ils ne sont pas coupables. Parce que peut-être que si nous, on était nés à la même époque, on aurait fait pareil.
Oui, on aurait été bien contents d'avoir le plastique. Enfin,
bien sûr.
A été l'invention la plus stylée du monde au moment où c'est arrivé, le plastique. Enfin, les gens étaient vraiment là, genre, waouh, on va pouvoir conserver des trucs, ça va être la folie. Personne n'avait aucune idée que ça finirait en microparticules dans tous les poissons de tout l'océan. Et on peut pas...
Mais donc l'urgence de faire comprendre et de aussi... faire prendre conscience qu'il y a des solutions, qu'on n'est pas voué à tous mourir sur une planète plus de 10 degrés et toute brûlée. C'est pas du tout une... Et puis il y a des nuances, c'est-à-dire qu'à chaque fois on nous dit qu'on a passé des limites planétaires. Une planète à plus de 2 degrés, ce n'est pas du tout. Alors pas du tout la même chose qu'une planète à plus de 4 degrés.
Il
sera toujours temps d'agir, et ça, encore une fois, c'est un des discours qui est un peu dangereux,
qui est
de dire c'est bon, on a dépassé
c'est
la
déjà
limite.
Foutu.
C'est foutu.
C'est déjà foutu.
Effectivement,
non,
c'est foutu pour revenir comme avant.
Oui,
ça, c'est
en
certain.
Fait, il y a plusieurs paliers.
En revanche,
si on peut éviter de passer encore un ou deux paliers, ce sera pas
non,
mal.
Mais surtout, c'est vraiment, on parle d'un peut-être un endroit où on aura de l'eau et un endroit où on n'aura pas d'eau à boire. Enfin, c'est de ça aussi dont il est question. C'est aussi, de encore une fois, notre
sécurité. Vous préférez de l'eau ou vous préférez pas d'eau? On en revient au début du podcast, on a bouclé. S'informer aujourd'hui, je pense, pour beaucoup de gens,
laborieux.
C'est prendre le risque de désespérer.
De changer d'avis.
Moi, je te rejoins, j'aurais plus envie de dire c'est prendre le risque de changer d'avis, de vous rendre compte de plein de choses. Mais pour plein de gens, je crois, aujourd'hui, vu qu'on est dans on a un peu conscience de toutes les difficultés dans lesquelles on vit, même si on n'est pas extrêmement renseigné, et prendre le risque de se renseigner, c'est prendre le risque d'être ensuite, au moment où tu dois faire le dîner pour tes deux gamins qui rentrent de l'école, d'être un peu déprimé parce que tu dis, ils vont grandir dans un monde horrible. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de gens, et notamment, je faisais allusion à cette fameuse tranche un peu 40-60 ans, je pense que beaucoup de cette tranche d'âge-là préfèrent être encore un peu dans le déni parce que c'est plus confortable.
Effectivement, mais le problème, c'est que leur déni nous condamne. Et c'est ça qui
est
après.
Il y a une différence aussi à être dans le déni et à carrément voter pour des partis qui ne considèrent pas une seconde l'écologie.
C'est vrai, ça fait déjà une heure qu'on papote. Donc, petite chronique top flop culture. Donc, si tu as quelque chose que tu veux recommander, alors sur ce sujet-là ou sur absolument n'importe quoi, bien évidemment, on peut élargir.
J'avais un truc que...
recommander ou quelque chose que tu n'as vraiment pas aimé et que tu as envie de dire ça, c'est la merde, parce que, bah, parce qu'on est quand même chez Camille et Justine. Donc,
on aime bien se plaindre. Un truc que tu as lu, vu, entendu, une expo, n'importe quoi.
Si tu veux, je commence.
Mais on va commencer le temps que tu...
Bah, sur le féminisme, je pense qu'on vous l'a cité un milliard de fois, mais tout le travail de Victoire Thuayon, évidemment. Non, qui, je pense, permet de convaincre, en fait. C'est pour ça que je l'ai cité.
Qui a le podcast Les Couilles sur la Table.
Le podcast qu'on a reçu dans un de nos épisodes.
Totalement. Le podcast Les Couilles sur la Table et le podcast Le Cœur sur la Table, les deux ont été déclinés en livre. Mm-hmm. Je pense que c'est vraiment des outils de dialogue vraiment intéressants et qui permettent de convaincre ceux qui ne sont pas convaincus du tout sur ces questions-là et qui sont très très intéressants. Il y a tout le travail évidemment de Mona Chollet aussi sur les questions féministes. Sur le climat, il y a les livres du CNRS qui sont parus, qui sont très intéressants. C'est des BD qui se lisent vraiment deux
Justine,
heures.
Justine, t'as entendu, c'est des BD.
Oui. C'est enfin des BD. Oui, c'est animé. Okay. Il y a des dessins en tout cas. C'est vraiment c'est parfaitement simple tout en restant très juste et précis. Et c'est accessible à tous. Il y en a une qui s'appelle Tout sur le climat, qui a été coécrit avec l'activiste Bon Pote, qui est quand même écrit avec des chercheurs du CNRS. Hein. C'est très très sérieux. C'est illustré très bien. C'est pour moi c'est un des trucs les plus pédagogiques que j'ai pu lire sur le climat. Et ils ont sorti un deuxième livre qui s'appelle Tout ou presque, à chaque fois c'est ou presque, sur la biodiversité. Donc c'est le deuxième. On nous parle beaucoup du climat, mais il ne faut pas oublier de parler de la biodiversité quand même. Qui, ça, je pense, sont vraiment extrêmement pédagogiques. Récemment, j'ai lu l'essai de Camille Etienne, qui s'appelle Pour un soulèvement écologique. Et qui parle bien.
Il est sorti là ?
Ouais, il est sorti. Okay. Et il parle bien de cette. C'est aux éditions du Seuil, il me semble. Et qui parle bien de cette notion d'impuissance. Et du fait qu'on n'est pas impuissant et qu'on nous fait croire qu'on est impuissant. Okay, donc, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Et vas-y, donne tes recommandations, peut-être que ça me fait chier à d'autres pendant ce temps-là.
Alors, j'ai d'abord une toute petite recommandation très personnelle.
Elle est minuscule ?
Non, elle n'est pas minuscule, elle est énorme, comme ma...
Bien sûr.
Mon charisme.
Oui, évidemment.
J'ai créé un autre podcast, parce que je fais des infidélités à Justine Lothar. Donc, si jamais vous aimez les séries, si vous êtes friand de séries télévisuelles, vous pouvez aller écouter un podcast qui s'appelle Versus le clash des séries. C'est un podcast dans lequel on fait s'affronter deux séries qui sont un peu dans la même vibe. Exemple, récemment on a fait un épisode sur Dahmer et Le Serpent, deux séries que j'ai détestées soit dit en passant, où on va bientôt avoir un épisode sur les deux spin-offs, celui de Game of Thrones et celui du Seigneur des Anneaux. Donc on fait s'affronter des séries. Le premier épisode c'est Parks and Rec versus The Office. Voilà, donc on papote, on fait des petits combats, des meilleurs personnages, des séries qui sont les plus féministes, celles qui ont le mieux vieilli, celles où le tueur en série, il est le plus stylé, par exemple.
Ah, oh.
Ouais, trop bien. Est-ce que tu préfères te faire tuer par Dahmer ou par...
Trop bien. Yes.
Et voilà, donc ça, c'est dispo sur toutes les plateformes. J'ai un petit flop, j'espère que ça va vous faire rire, parce que moi, ça m'a fait rire. En ce moment, j'ai un petit kiff sur Netflix, je regarde des concours docu un peu. Enfin, j'ai donc tout regardé, je l'ai déjà cité la dernière fois, Next in Fashion, sous les recommandations de Justine, qui était un concours de stylisme. Puis j'ai regardé Glow Up, qui est un concours de maquillage.
C'est pas
du tout
des docu.
C'est pas des docus, j'ai dit n'importe quoi.
Complètement
pas des docus, n'importe quoi. Non, mais je voulais dire de la réalité.
C'est des BD sur Netflix.
Non, vous
sculptez quoi
pas en sucette. Non, mais comment le fait que c'est pas de la fiction, quoi.
Des concours télé.
Oui. Bah, en fait, c'est parce que du coup...
Mais pas tout à fait, parce qu'on ne suit pas les gens au quotidien.
Oui, c'est pas de la télé-réalité, c'est juste l'épreuve. Enfin, on regarde leurs épreuves de make-up artiste ou de styliste.
C'est vraiment des concours télé.
Et je sais pas, l'une chose en entrée dans une autre, je me suis retrouvée à regarder Sirène de métier. Mais je pense que ça a été mis en avant par Netflix parce qu'il y a le dessin animé La Petite Sirène qui est adapté en live action au cinéma.
Donc c'est le métier de sirène. Oui.
Donc c'est être sirène. Et vraiment, j'ai regardé en me disant « Oh, ça va être tout pop, tout bonbon, tout good vibes de regarder ça. Un petit docu sur les personnes qui sont sirènes de métier. » Et c'est déprimant. C'était déprimant. Il y a 4 épisodes, c'est déprimant. C'est déjà
ne regardez pas, quoi.
Mais je sais pas, c'est des gens qui font ça comme métier, mais genre un peu comme si tu veux devenir chanteuse ou actrice. Et elles ou eux, parce que des garçons et des filles veulent devenir sirènes. Et en fait, du coup, ils dépensent des fortunes en maquillage, en queue de poisson. ça leur détruit les sinus, les yeux, les oreilles, parce qu'ils ne font que plonger dans des eaux, dans l'eau et tout. Enfin, ils sont en mauvaise santé comme tout. Il n'y a pas beaucoup de boulot, donc ils galèrent, ils font des auditions partout. Mais c'est déprimant.
Mais tu vas jusqu'au bout quand même.
Il n'y avait que 4 épisodes. Qu'est-ce que
vous voulez que je vous dise ? Mais parce que moi, j'ai eu ce comportement avec une série qui s'appelle L'Agence.
Je l'ai pas regardé. Parce
c'est
que
dramatique.
Sur les appartements de riches là.
Oui, c'est vraiment la promotion de la spéculation immobilière. Enfin bref, rien ne va dans cette série. Et j'ai regardé un épisode, mais vraiment en me disant, je vais aller regarder ce qui, parce que ça a l'air d'être un immense succès.
C'est
je vais
une
regarder.
Famille de riches.
Et j'ai tout regardé en me disant non, mais c'est pour le travail. Mais en vrai. Je n'étais pas obligée de regarder les 15 épisodes du truc. Et vraiment, c'est tout ce qui doit s'arrêter aujourd'hui en termes de climat. C'est-à-dire que rien
que
ne va.
Abolir.
En termes de modèle économique, rien n'est viable en fait, dans ce qu'ils proposent.
C'est genre des gens qui ont plusieurs appartements, qui mettent
Oui, puis surtout des appartements qui sont complètement...
Non, mais c'est des trucs
complètement
de
prix. Tout ça dans un monde où
il n'y aurait
pas de pauvreté. Tout le monde est... Le but de la vie n'est que faire de plus d'argent et d'avoir des toujours plus grosses maisons. C'est vraiment, rien n'est soutenable.
Ah, j'ai encore un top. Tu vas faire quoi, Justine? Tu vas patienter, en fait. Je suis en train de lire, je ne l'ai pas tout à fait fini, mais j'ai compris l'idée. Le livre de Léane Alestra qui s'appelle « Les hommes hétéros le sont-ils vraiment ?» C'est la personne qui tient le compte Mécréante.
Oui.
Mais le compte Instagram Mécréante que vous pouvez suivre parce que qui est vraiment super. Et donc, l'objectif de ce livre, c'est de questionner, et c'est ça que je trouve très intéressant, le fait que c'est pas juste pour dire est-ce qu'en fait les hommes hétéros sont gays, c'est pas ça le questionnement, c'est de dire on élève, on éduque dans notre société les hommes à la fraternité masculine, à faire des jeux de garçons, à être des bonhommes, à pas être des fillettes, mais à vouloir être amoureux des filles. Alors qu'on on les éduque à mépriser le féminin, à mépriser le fait de se faire pénétrer, à mépriser en fait tout ce que représentent les femmes, à mépriser les métiers de femmes, le care, le soin, pleurer, les
émotions.
Mais
à sortir avec elles quand même.
Mais à vouloir sortir avec elles. Et moi, c'est un sujet qui m'intéresse.
J'avoue.
Énormément, parce que je trouve ça très pertinent, effectivement. Et donc, c'est... évidemment ça parle aussi donc de tout le boys club, des bromances, le fait que la bromance est acceptée parce qu'on est juste sur le méga respect et l'amour entre deux mecs, mais no homo par contre. Voilà, c'est un questionnement que je trouve très intéressant qui fait écho d'ailleurs à ma révolte face à notamment Koh-Lanta en ce moment, et à chaque fois comment les amitiés hommes sont mises en avant envers et contre tout et se soutiennent alors qu'en fait ils sont jamais vraiment parlé, ils ont pas vraiment parlé de leurs émotions, de leurs sentiments, ils ont jamais eu forcément des grandes discussions,
ils sont juste potes parce qu'ils sont mecs
au détriment des meufs qui font toujours passer en dernière même s'ils ont créé une amitié avec les femmes. Et voilà, je trouve que c'est très intéressant à questionner. Mais c'est vraiment surtout cette notion-là de on les éduque à mépriser les femmes, mais ensuite à être amoureux de leurs femmes. Et du coup, tu m'étonnes que leur seul but après, c'est de ne pas rentrer à la maison, de ne pas s'occuper des tâches ménagères, de ne pas rester avec sa femme, de vouloir la tromper, de vouloir sortir avec une femme très jeune pour pouvoir la construire à ton image, de se moquer de ta meuf dans le dos, dans son dos, dès que tu es avec tes amis. Enfin voilà, c'est des questionnements qui sont hyper intéressants.
Ok, alors je vais faire vite. Un flop.
Mais t'es pas obligé de faire vite, tu peux prendre tout ton temps.
Non, je vais faire vite. Parce que j'ai très envie de faire vite.
Je vais vite et je cours. On va pas perdre du tout.
Flop, Nouvelle École, saison 2 sur Netflix, qui est un concours de rap. Pareil, c'est un concours télévisé de rap. La première saison m'avait beaucoup plu, parce que j'aime bien le rap. Et puis il y avait vraiment des concurrents, concurrentes chouettes. Mais ça m'avait déjà saoulé,
hein,
évidemment, parce que dans le jury, donc il y a Shai, SCH et Niska. Niska, qui, je le rappelle, a été accusée de violence conjugale sur Aya Nakamura. Donc, déjà, le choix était embêtant, parce que, mais peut-être qu'il n'y avait pas assez de rappeurs en France, donc il fallait prendre Niska. Saison 2, ils ont réitéré le jury de nouveau Niska, qui en plus est vraiment pas pertinent. Honnêtement, il n'est pas pertinent dans ses choix, il est juste là. Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime pas. Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime pas, t'es là. Ah, ok. Voilà, bon, et donc j'ai regardé deux épisodes. Ce sont les sélections où il y a genre une quarantaine de mecs.
Candidats.
Dont trois meufs qui se présentent. Et en fait, il n'y a aucune meuf qui a été retenue sur les trois qui se sont présentées. Donc c'est un concours entre mecs. Voilà, à partir du troisième épisode, ce ne sont que des mecs et ce n'est pas un sujet. Du coup, voilà, j'ai regardé juste deux épisodes et je vous recommande de même pas en regarder un parce que c'est trop saoulant. Surtout que les trois meufs qui se présentent, il y en a deux qui sont vraiment très très fortes objectivement, vraiment. Et elles ont été juste recalées par Niska parce qu'il a dit « j'aime pas, c'est pas mon style ». Et il a préféré prendre des mecs qui étaient moyens. Voilà.
Mais toi, t'es pas comme Camille et moi, tu vas pas au bout de la souffrance, ah, là, toi quand t'aimes pas.
Ah, là, non, mais là c'est un choix politique c'est pas, même. Enfin,
ouais,
c'est
pas j'aime pas, ouais, c'est, ouais, c'est vraiment c'est, là, c'est un choix. Ouais, ouais. De genre, il n'y a plus de meufs, vous m'avez saoulé, c'est je injuste, je quitte Netflix.
Ah, non, mais en vrai, parce qu'on milite pour dire que plus on prendra ce genre de décision radicale, ouais, de dire ouais, en fait on ne regarde pas, vous mettez pas de femmes, on ne regarde pas.
Il n'y a pas de parité,
si on est vraiment nombreux et nombreuses à faire ça.
Je respecte.
Ils vont changer, ils vont être obligés de changer en fait. S'ils constatent que vraiment ils perdent de l'audience, ce qui sera peut-être pas le cas, malheureusement, mais on est obligé de prendre cette décision radicale pour espérer toucher et impacter, quoi.
Ouais, ouais, non, s'il n'y a pas de parité, je regarde pas. Parfois même s'il y a des mecs, je regarde pas. Bref. Je vous recommande également dans une autre thématique, mais un peu dans une thématique féministe aussi, Les Orageuses de Marcia Burnier, qui est un premier roman qui dépeint un gang de filles décidant un jour de reprendre comme elles peuvent le contrôle de leur vie. Donc c'est un gang, on suit un gang de meufs, copines ou pas, qui en tout cas sont rassemblées autour de l'idée de se venger de leurs agresseurs. Donc du coup, qui vont chez eux tout saccager. Voilà. Et c'est très stylé. C'est vraiment vraiment bien écrit, et c'est vraiment je sais pas comment on dit, salvateur,
empouvoirant,
ouais,
ça te donne envie de pas. Ça fait du bien, quoi.
C'est pas de la violence directe, genre elle violente pas les mecs, elle saccage chez eux pour leur dire on est là. Et moi, depuis que tu m'as violée, je dors pas, je suis traumatisée, je suis en dépression. Donc il y a pas de raison que toi tu continues ta vie normale. Donc je vais venir te faire bien flipper juste pour que tu saches qu'on peut être flippante aussi. Et voilà, je sais que c'est un sujet qui nous anime beaucoup avec Camille en ce moment, la violence féminine, qui est une violence interdite. Donc voilà, je dis pas ça pour prôner la violence, puisqu'on n'a pas trop le droit de faire ça, mais c'est intéressant, je trouve, de parler de violence féminine.
Et ça t'a un tout petit peu inspiré vu que tu t'es fait tatouer.
Oui.
Ah ouais, carrément.
Je me suis fait tatouer le mot révolte sur le pied. Et dans ce livre, il y a une des meufs qui se fait tatouer le mot révolte. Et vraiment, j'ai fermé le livre et je le
beaucoup
veux.
Beaucoup plus.
Ça m'a beaucoup plu. Je le trouve très très bien. Et très... Ouais, franchement, il est très bien écrit. Il se lit en 2 secondes. C'est vraiment le genre de livre que je peux lire parce qu'il est tout petit.
Je peux rajouter une dernière recommandation, parce que là, j'ai eu le temps d'y réfléchir plus longuement. Évidemment, les vidéos de Blast, particulièrement de ma collègue Paloma Moritz, qui s'occupe de l'écologie à Blast, avec laquelle je travaille beaucoup et avec qui je vis une très belle expérience de sororité aussi, et qui a fait un reportage récemment qui est vraiment très très intéressant sur, ça s'appelle l'inquiétante escalade répressive et autoritaire de l'État contre les militants écologistes. C'est vraiment d'une grande qualité, et elle est allée montrer un peu ce que le problème en fait dans le fait qu'on criminalise ces militants et que les criminels ne sont pas du côté duquel on pense. Et c'est vraiment très bien fait, et de manière générale à Blast on essaie de ne pas compartimenter les thématiques économiques et écologiques et politiques, et de dire il y aurait d'un côté l'écologie et puis tout le reste. Tout au contraire, de montrer que c'est transversal, de montrer que c'est lié. Et donc voilà, je lui fais un petit clin d'œil dans votre podcast.
Bah, on l'aime beaucoup aussi, et on aimerait bien la recevoir dans le podcast prochainement.
Avec joie. Je vous invite à la suivre déjà sur les réseaux sociaux.
Oui.
De la même manière que vous pouvez suivre aussi Salomé Sake, elle là, elle,
elle sur le canapé à côté de Lilette. Vous pouvez
la suivre sur tes réseaux aussi sur Instagram. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.
Merci.
Bye. On espère que cet épisode vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes audio, à le faire tourner, nous laisser des étoiles, des cœurs, des mots doux, des commentaires quand c'est possible. Ça nous aide à référencer le podcast.
Et vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, sur Instagram et même sur Facebook pour les plus vieux d'entre vous, en tapant Camille et Justine. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain numéro.
Merci, bye.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.